1 Samuel, chapitre 1, versets 20 à 28. 1 Samuel, chapitre 1, versets 20 à 28. Au nom de Jésus. Anne devint enceinte, puis mit au monde un fils. Alors elle déclara: puisque je l'ai demandé au Seigneur, je lui donne le nom de Samuel. Par la suite, Elkana se rendit de nouveau à Silo avec sa famille pour y offrir au Seigneur le sacrifice annuel et un sacrifice particulier qu'il avait promis. Mais cette fois, Anne n'alla pas avec son mari. Voici ce qu'elle lui avait expliqué. « J'attends que l'enfant soit sevré, alors je l'emmènerai à Silo. Je le présenterai devant le Seigneur et il restera là pour toujours. » Elkana avait répondu: « C'est bien, puisque tu le juges bon, reste ici avec lui jusqu'à ce qu'il soit sevré. Que le Seigneur tienne sa promesse. » Anne était donc restée à Rama pour allaiter son fils. Lorsqu'elle l'eut sevré, et bien qu'il fût encore tout jeune, elle l'emmena au sanctuaire du Seigneur à Silo. Elle et son mari avaient pris un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. Ils offrirent le taureau en sacrifice, puis ils conduisirent l'enfant auprès d'Élie. Anne dit à Élie: te souviens-tu de cette femme qui se tenait un jour ici, non loin de toi, pour prier le Seigneur? Aussi vrai que tu es vivant, c'était moi. Voici l'enfant que je demandais dans ma prière. Le Seigneur me l'a donné. À mon tour, je veux le donner au Seigneur pour toute sa vie. Il appartiendra au Seigneur. Amen. Il existe des expressions dans les évangiles que le Christ utilise et qui ne sont pas faciles à comprendre dans un premier temps. Une de ces expressions très souvent utilisées, c'est cette parole de Jésus dans Matthieu chapitre 21, verset 21, qui dit: si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ce figuier, mais même vous direz à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Je me rappelle bien quand j'étais encore à l'école du dimanche, j'ai plusieurs fois fait l'exercice parce qu'il y avait une montagne tout près de notre maison. J'ordonnais à cette montagne d'aller vers la mer et ça n'a jamais pu se faire. J'étais très déçu, je dis, mes monitrices, moniteurs m'ont menti à l'école du dimanche. Donc c'est difficile à comprendre. Et nous savons très bien qu'il ne faut pas prendre à la lettre, bien sûr, cette parole. Tout de même, nous avons encore du mal à la comprendre. Et c'est ça qui est bien avec la parole de Dieu. Même tout en étant pasteur, il y a des textes que je ne comprends pas encore. C'est pas parce que j'ai fait de la théologie pendant 9 ans que j'ai tout compris. C'est pour ça que cette parole, elle est vivante. Plus tu avances dans ton cheminement spirituel, plus ça commence à s'éclaircir. Donc ne soyez pas découragés quand vous tombez sur des passages incompréhensibles. Alors, pour résoudre un tel problème, il faut toujours se rappeler d'un principe de base. Toutes les Écritures s'interprètent entre eux. C'est-à-dire que ce n'est pas ta tête, ni les documents, ni les commentaires bibliques, ni tu vas aller sur Internet, puisque sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Seules les Écritures entre elles qui s'expliquent. Si vous avez un problème avec un passage, prenez note, et plus tard, vous lirez un autre passage, et là, le Saint-Esprit va vous donner un signalement. Ah, ce texte, me semble-t-il, éclaircir l'autre texte. C'est comme ça que ça fonctionne. Les Écritures s'expliquent entre elles. Pas besoin d'aide. Alors, en lisant cette histoire de Anne, la mère de Samuel, je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite, cette parole de Jésus, dans Matthieu 21-21 que je viens de vous dire, m'est venue spontanément, comme ça. Vous allez me dire, quel est le lien entre le fait de dire à cette montagne de se déplacer et cette histoire de la naissance de Samuel? Selon ma propre lecture, cette femme a su faire déplacer non seulement une montagne, mais trois montagnes devant elle. La première, c'est sa souffrance en tant que femme stérile. N'ayant pas d'enfant, elle venait tous les jours dans le sanctuaire, il n'y avait pas encore le temple, mais avant le tabernacle, pour prier. Et là, vous venez de lire, elle a eu gain de cause. C'est immense. Deuxième montagne qu'elle a pu déplacer, c'était face à Élie, le prêtre. Le prêtre qui l'avait vu venir tous les jours, parce que le prêtre remarqua que cette femme vient tous les jours pour prier. Et lui, il croyait que c'était une folle, une dame qui a perdu la tête. Et puisqu'elle a perdu la tête, elle a sombré dans l'alcool. Vous voyez les préjugés que nous avons, nous, les pasteurs ou les hommes d'église, face aux gens. C'est une folle, celle-là, peut-être, qu'elle a perdu la tête. Elle a trop bu pendant les fêtes de Noël. Et donc, elle a bu de l'alcool, peut-être, pour apaiser sa souffrance. La personne qui devrait la consoler, la personne qui devait l'accompagner dans sa douleur, n'a pas saisi la gravité de la situation de cette femme. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a jugée comme une pécheresse, une alcoolique. Et pourtant, elle n'a même pas bu une seule goutte d'alcool. Et une fois que l'enfant Samuel arrive à un certain âge, Anne, cette femme, et son mari Elkana sont venus auprès du prêtre Élie pour confier Samuel et lui dire que voici l'enfant que j'avais supplié au Seigneur. Imaginez-vous la scène. Cette femme qui était maltraitée, jugée, condamnée, considérée comme folle, et c'est elle qui offre encore l'enfant à ce prêtre indigne. Voilà la deuxième montagne qu'elle a déplacée. C'est comme si elle voulait dire que vous avez cru que j'étais folle. Sa venue auprès d'Élie a ôté la mauvaise image qu'il avait d'elle, le préjugé. Préjugé, c'est une montagne énorme. Mais regardez comment elle a fait. Elle n'a rien dit. Elle s'est laissée faire, mais c'est dans ses actes qu'elle a pu déplacer cette montagne. Donc la deuxième montagne qui a été enlevée, c'est la honte et le déshonneur. Troisième montagne qu'elle a déplacée, c'est qu'elle a su offrir plus que son mari a fait ou les autres font lors des sacrifices à l'Éternel. Regardez dans le texte pour Elkana, par exemple, pour remercier l'Éternel de ce don inestimable, il a offert des sacrifices. Tandis que Anne, non seulement elle a donné des sacrifices, mais elle a fait plus que cela. Elle a offert d'abord des sacrifices comme tout le monde, un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. Mais le grand sacrifice de sa vie, c'est qui ? Son fils, le fils unique qu'elle attendait toute sa vie. Elle n'avait pas 10, un seul. Toute sa vie, mais qu'elle va devoir offrir à l'Éternel pour le servir dans le sanctuaire. Donc la troisième montagne qu'elle a déplacée, c'est l'acceptation de donner l'être la plus chère à ses yeux, à l'Éternel. Il faut appeler cette dame une sainte. Si l'Église doit béatifier quelqu'un, je pense que c'est cette femme-là. En résumé, voici les trois montagnes qu'Anne a su faire face. Le déshonneur, la souffrance et le renoncement à soi. Rien ne la faisait reculer, car on sent que l'amour pour son Dieu l'animait et lui a donné cette force que je qualifierais d'extraordinaire à la lettre. Extraordinaire, dans le sens où pour un humain normal, c'est énorme ce qu'elle a fait, c'est impossible de faire ça. Mais elle a reçu une force qui vient d'en haut pour déplacer ces trois montagnes. Alors la leçon principale à retenir, pour moi en tout cas dans ce texte, est ceci. Celui et celle qui sont vraiment animés par l'amour de Dieu pourront aussi faire des exploits pareils. Toi aussi tu peux le faire. Car notre nature pécheresse nous empêche à produire des œuvres qui dépasseraient même l'entendement. Nous serions appelés à déplacer des montagnes lorsque c'est le Seigneur qui nous anime dans tout ce que nous faisons. Jésus lui-même l'avait dit, Jean chapitre 14, versets 12 et 13. « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. » Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Vous avez entendu ce que Jésus vient de dire ? Vous ferez aussi les œuvres que moi j'ai faites. Mais ne nous trompons pas dans la compréhension de cette parole de Jésus et de penser que nous allons faire des prodiges partout, ressusciter des morts, rendre la vue aux aveugles, oui, pourquoi pas, si Dieu le veut. Mais ce n'est pas du tout le but. Anne, si elle avait su faire déplacer toutes ces montagnes, ce n'était pas pour elle. Et là, il faut que ce soit clair. Oui, tu peux faire des exploits, mais ces exploits ne seront pas pour toi. Mais pour qui ? Pour l'autre. Anne a su faire tout ça, mais pas pour elle. Elle a lutté pour avoir cet enfant. Elle a pleuré des larmes de son corps. Elle a jeûné, si on peut le dire. Mais une fois qu'elle a eu cet enfant, elle ne l'a pas gardé pour elle. Elle l'a donné à l'Éternel. Voilà ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas dans le but pour nous, car le petit Samuel qu'elle demandait à l'Éternel a été donné pour lui. Toutes les grandes œuvres de Dieu effectuées par les grands serviteurs de Dieu, par exemple comme Moïse, qu'ils avaient réalisées, n'étaient pas pour leur compte personnel. Lisez bien vos Bibles. Souvent, j'entends des prédications qui disent « Oui, tu peux faire des miracles. Oui, tu peux faire des choses extraordinaires. » Je suis d'accord à 100%. Mais lisez la suite. Quand Jésus avait fait des miracles, quand Pierre avait fait des miracles, quand Paul avait fait des miracles, il l'a fait pour qui ? Pas pour lui. Si vous lisez aussi les miracles de Jésus, il n'y a aucun qu'il avait fait pour lui. Une seule fois, Jésus a demandé une faveur à son Père. Une seule fois. C'était où ? À Gethsémané. Père, enlève-moi cette coupe amère. Mais on lui a refusé. Mais tout pour nous. Et c'est ça le but des miracles. Les miracles sont faits pour les autres, pour Dieu, pour mon prochain. Tout était pour le peuple d'Israël et rien pour lui. Et le Christ, en venant au monde, c'est dans ce but-là, se vider, tout donner aux hommes et rien pour lui. Tous les pouvoirs, toutes les autorités qu'il a, il les a utilisées pour le bénéfice uniquement de l'homme. Il n'a jamais demandé quelque chose pour lui. tout pour nous, à en juger la prière qu'il avait faite pour ses disciples. Rappelez-vous, Jean 17, 24, il a dit ceci. « Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'aimais avant la création du monde. » Il prie encore pour les siens, « Ce que tu m'as donné, j'aimerais leur donner ça. » Alors, si tu veux déplacer les montagnes, tu dois te surpasser dans le sens où tout, pas pour toi, mais pour les autres. C'est difficile. Parce que la conjugaison qu'on nous a appris depuis notre enfance commence par le « je ». Et c'est après que le « tu ». Je l'avais déjà dit ici, je pense, pendant une étude biblique. Pourquoi j'aime beaucoup l'hébreu ? Parce que la conjugaison hébraïque ancienne commence par « il ». Et ensuite « tu ». Et enfin « je ». Ça m'a frappé. Pourquoi ils ont fait ça, les Hébreux ? « Il », troisième personne du singulier. Ensuite « tu ». Et après « je ». Voilà la logique du royaume des cieux. Es-tu prêt à y aller là-bas ? Là-bas, ce ne sera pas pour toi seul. Hein. Là-bas, il d'abord, ensuite tu, et après moi. Il faut s'habituer à ça dès maintenant. Ne pensez pas que vous allez au paradis, vous allez dormir sur un hamac et voilà, tous les anges viennent vous servir, vous apporter des jus ou des je ne sais pas quoi. Vous serez déçus. Hein. Donc, la vie ici-bas, ce n'est pas une salle d'attente. Moi, je considère que la vie ici-bas, c'est un apprentissage de la vie là-haut. Si Dieu ne nous a pas encore pris aujourd'hui, il dit que tu n'es pas encore prêt à vivre. Parce qu'ici, là où il est, tout commence par un « il », c'est-à-dire l'éternel. Ensuite, l'autre, et après toi. Es-tu prêt à aller là où il est ? Voilà ce qui t'attend. Amen.